actionnaire payant comme ferblantier,
peintre,
plâtrier,
carreleur,
cimentier,
poseur de revêtements souples et bien plus encore.
Il n'est jamais trop tard pour choisir ton domaine d'emploi.
Deviens élève d'un jour et viens vivre une vraie expérience en atelier dans le programme de ton choix.
Lémoic est aussi fier de participer aux efforts pour favoriser l'intégration des femmes dans l'industrie de la construction.
Pour plus d'informations, rendez-vous au www.emoic.qc.ca ou prends contact avec une conseillère en orientation au 418-686-4040, poste 7200.
Choisir Lémoic, c'est choisir de réussir.
Hey yo, y'en a pas de pression, appelle ton partner, appelle ta meuf, vous mettez ça au 96.9. What? Ton boy SP.
FUWCE accent grave.
J'ai le demande à la claire ensemble.
Ici Webster, le vieux de la montagne.
C'est confus.
Yo, c'est Big Lou et Bob Bouchard.
Arnetto Youde, aïe.
S-O-U-L-D-I-A.
Ici S-A-Y-E.
Yo, ici Paradox, vous écoutez CJMD 969, la radio officielle du Southside.
Bon matin, c'est JMD. Eh oui, je suis là ce matin. Qui ça? Ben, Louis Seb, animateur de La Traverse. En ce mercredi, non, faux, ce jeudi matin, 26 avril. Vous voyez, j'étais absent hier, puis je me prenais pour hier. Ma petite est malade ce temps-ci, alors papa à la maison, c'est ce qui arrive. Mais ce matin, t'es avec moi. Ben, vous l'entendrez pas, c'est Jean-François Morin qui est avec moi en studio. Salut Jean-François.
Hey, bon matin.
Ça va bien?
Ben oui, ça va super bien, merci. Puis toi?
Oui, ça va de mieux en mieux. Là, quand les enfants sont malades, on fait ce qu'on peut. Au moins, je ne l'ai pas été trop.
C'est sûr. On va toucher du bois.
Mais on va toucher du bois, c'est ça. Mais inquiétez-vous pas, là, je m'étais bien lavé les mains avant de vous serrer les mains ce matin. Donc, une quatrième émission pour toi, mon Jeff, un matin?
Quatrième, ça fait quasiment un mois.
Déjà, ben un mois.
Ça va vite.
Quatre semaines, on peut dire que c'est un mois.
Ça va vite.
Puis là, de ce que j'ai entendu l'autre jour, toi, tes semaines sont planifiées jusqu'à fin mai.
Ouais, fin mai, puis je commence à booker début juin aussi.
Juin, bon, on fait-tu la radio cet été? J'ai pas encore pris la décision. peut-être pas. On verra. Il y a beaucoup d'émissions ici à CGMD qui font relâche. Donc, je ne sais pas encore si je vais animer une quotidienne cet été ou ce que... On verra. Je vais faire le tour des co-animateurs. Jean-François lui-même fait une face pas sûre. On verra. L'été, c'est le temps de, des fois, prendre des vacances ou de, d'être un peu plus relax. Fait que on verra si ça sera ça aussi du côté de la radio à suivre. Et mardi dernier, je vous annonçais la venue là, de l'application CGMD. Eh bien, du côté de Google, sont plus rapides à approuver. C'est maintenant disponible. Donc, CGMD mobile dans le Google Play Store du côté des téléphones Android. Android, donc les téléphones Samsung, HTC, LG, name it, là, il y a plusieurs constructeurs. Du côté d'Apple et iPhone, donc c'est encore en approbation. Eux, on sait qu'Apple, c'est un peu plus long. Un produit de qualité qui nécessite plus de visualisation. Enfin, regarde, gars. Application mobile de CGMD pour écouter... la radio en direct, hein. On a TuneIn là, qui est notre gros partenaire au niveau de la diffusion, mais là on va avoir notre propre application, aussi écouter les podcasts, voir la programmation, nous rejoindre, les réseaux sociaux, bref, ça va être à télécharger, n'est-ce pas Jeff?
Exact.
T'es iPhone, toi, je pense, hein?
Je suis iPhone, ouais. On va attendre l'application mobile.
Ça va s'en venir, ça sera pas trop long. D'après moi, au courant de la semaine, j'ai envoyé les deux hier. Fait qu'en 24 heures, Android ont répondu. J'appelle, j'ai bon espoir, ça va être ici samedi. Le processus est un peu plus ardu.
Mais pour le moment, avec TuneIn, ça fonctionne super
bien. Ça fonctionne super bien, ben oui. TuneIn sera toujours là. Bref, nous, on veut juste plus d'alternatives pour nous écouter. On a le site web, 969FM. On a la TuneIn. On a aussi Radio Garden. Je pense que c'est toi qui m'avais envoyé le lien l'autre soir. C'est assez intéressant comme application. On voit là-dessus, puis là, on voit la Terre un peu comme Google Earth. Puis ça nous montre les stations qui diffusent dans le coin. Fait qu'on peut faire le tour du globe et aller voir dans une autre partie du monde qu'est-ce qui diffuse. Puis quand on arrive dans le coin, ben on a Lévi, évidemment, qui est là. Et je pense qu'il y a d'autres applications, le MyTuner Free, il y en a plein d'autres. Mais bref, tout ça pour vous dire que CJMD rentre dans la vague des applications mobiles pour cette année. C'est drôle parce que c'était pas du tout prévu dans les plans. On nous en a parlé il y a deux mois, mais maintenant, il y a tellement de beaux outils sur Internet que Ça coûte moins cher aussi à développer 100% l'application. On utilise des services existants. On paye une certaine licence, mais regardez, je ne suis pas programmeur d'application mobile et je l'ai fait. Alors, ça peut, c'est accessible. Donc, pour ceux que ça intéresse d'avoir des applications mobiles puis en savoir plus, mais venez nous voir. Facebook, La Traverse CJMD, facile à trouver. Sinon, si vous voulez nous rejoindre durant l'émission, si vous avez des questions à nous poser, on a un invité avec nous en studio, vous pouvez nous écrire par texto et courriel. Je regarderai les messages durant la pause et les soumettrai à notre invité. Et le 581-500-1191, ça, c'est le texto. Et du côté des courriels, c'est le studio@969fm.ca. Évidemment, la page Facebook aussi, si vous voulez nous envoyer des petits messages en direct. Je vous rappelle que je lis tout ça durant la pause parce que là, j'ai trop de pitons apaisés en même temps pour regarder ça, une vue active. Éventuellement, ce sera peut-être une tâche d'éco-animateur. Un petit clin d'œil. Alors, Jeff, ce matin, qui accueillons-nous dans nos studios?
Ben, laisse-moi t'alléger un peu de travail. On va prendre un petit peu la place. Au programme ce matin, c'est vraiment intéressant. On a une personne, une professionnelle qui est arpenteur géomètre, qui s'appelle Alexandra Labrec, qui travaille pour Le François Arpenteur Géomètre. Mm-hmm. Puis, ça fait plusieurs années qu'elle est arpenteur. On a développé des relations d'affaires ensemble pour différents dossiers. Puis, grâce à son service, son travail, ben, plusieurs dossiers ont été menés à terme dans des délais très courts ou dans des circonstances des fois un peu plus difficiles. Mais on a réussi à rendre ça à terme vraiment rapidement puis facilement.
De ce que je comprends avec toi, JF, depuis le début, c'est que tu nous amènes des gens aussi efficaces que toi.
Oui, c'est ça, on veut.
C'est le mot efficacité que je retiens.
On veut ce monde qui opère.
Je la connais pas encore, mais je te connais. Donc, je te laisse me la présenter. Là. Tu nous dis son nom, mais d'être avec nous ce matin directement de nos studios.
Bon matin.
Bon matin, Alexandra.
Bon matin, merci de l'invitation.
C'est vraiment cool. Puis, tu sais, dans le fond, aujourd'hui, au programme, on va parler pourquoi qu'on a besoin d'un arpenteur géomètre, le certificat de localisation, c'est quoi l'implantation, c'est quoi le piquetage, c'est quoi le bornage, c'est quoi. C'est quoi le travail d'un arpenteur géomètre versus un technicien? C'est quoi les différentes étapes de la réalisation d'un certificat de localisation? Pourquoi qu'il y a des délais? Tu sais, on peut toujours penser qu'on appelle un arpenteur, puis vendredi de la semaine d'après, ça va être réalisé, mais non.
Non, un petit peu plus long, j'imagine.
Il y a des délais à faire, puis c'est des documents quand même assez importants dans une transaction, même obligatoire. Puis, c'est quoi quelques problèmes qu'on peut retrouver, là, des fois, avec un certificat de localisation dans des délais qui sont faits un peu trop courts, un peu trop longs, etc., etc.
On va faire le tour là, de tout ce qui touche, ben pas tout ce qui touche, mais on va faire un tour d'horizon, parce qu'en une heure, sûrement qu'on peut pas faire le tour d'un métier, mais on va faire les points importants qui peuvent intéresser nos auditeurs. Alors,
exact.
Je vous laisse aller.
Puis, dans le fond, Alexandra, parle-nous de toi, parle-nous de ton travail, comment ça se passe dans ta réalité, c'est quoi les études qu'on doit faire pour arriver à un arpenteur. T'sais, dans le fond, explique-nous c'est quoi un peu les différentes étapes ou le pourquoi que tu es maintenant arpenteur.
Bien, premièrement, pour être arpenteur géomètre, il faut faire un baccalauréat en sciences géomatiques, profil sciences. C'est 4 ans de baccalauréat. Puis ensuite, on a des examens de l'ordre des arpenteurs géomètres à passer. Et puis, on a un stage à faire aussi dans un milieu professionnel. Moi, j'ai terminé l'université en 2013, puis j'ai été assermentée par l'ordre des arpenteurs en 2014. Donc, ça fait quelques années que je pratique déjà, mais pendant l'université, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs stages qui ont permis de m'aider là, à ma formation, puis tout ça. Puis, on me gardait aussi durant mes études. Donc, j'ai plus que quelques années d'expérience.
Ça l'aide durant les études de pouvoir faire des stages à des places, puis qu'on nous garde à cet endroit-là. Tu sais, c'est l'entreprise le sait, elle investit dans l'employé pour éventuellement l'engager. Est-ce que c'est là que tu travailles aujourd'hui ou
pas tout à fait?
Non. Okay, non.
J'ai fait quelques endroits, mais effectivement, les stages, c'est là qu'on apprend le plus parce qu'à l'université, c'est très théorique. Donc, les stages, c'est essentiel pour vraiment. Savoir le côté technique de la chose, la pratique.
Puis tu vois, au niveau des stages, là, moi, je trouve qu'au niveau de l'éducation, ça devrait faire partie à la base de faire des stages dès la première année. Puis le pourquoi de ça, c'est à cause qu'on... Puis c'est très personnel à moi, quand on est jeune, on sait vers où qu'on veut s'en aller, mais on n'a jamais travaillé là-dedans, on n'a jamais eu d'inventaire.
Puis on passe 3, 4, 5, 6 ans avant de toucher quelque chose.
Fait que tu sais, c'est super important. Puis tu sais, en même temps, c'est en étant les deux pieds dans le milieu, tu peux te faire une tête beaucoup plus rapidement que juste de faire des cours théoriques, etc. Puis tu sais, c'est quand même 4 ans là, de bac. Là. Puis tu sais, tu peux pas arriver après 4 ans avec tes investissements, arriver dans un domaine où ce que finalement, on sait que...
T'arrives sur le terrain parce qu'il y a du travail de terrain, pas juste du travail de bureau. Fait que c'est pas trop évident, là.
Puis pourquoi, Alexandra, on a besoin d'un arpenteur?
On a besoin dans plusieurs situations. En fait, la première des choses, c'est lorsqu'on vend sa maison, un certificat de localisation. Sinon, si on veut se faire construire. Donc, on a besoin d'un plan projet d'implantation d'un arpenteur géomètre pour obtenir son permis de construction à la ville. Sinon, ça peut être aussi une opération cadastrale. En fait, les promoteurs immobiliers qui arrivent avec un grand terrain puis qui veut morceler le terrain en plusieurs terrains pour les vendre par la suite et puis construire des maisons. Donc, on va parler de projet de lotissement. Ensuite, ça peut être aussi pour des mandats de piquetage. Donc, pour indiquer les limites de propriété, hein, les fameuses bornes et les fameux repères, les caps jaune-orange qu'on voit là au coin des terrains. C'est nous qui font ça.
Ou ce qu'il y a eu à certaines époques, certains gens qui prenaient la borne puis la tassaient d'un pied pour agrandir leur terrain.
Ouais, j'imagine que ça devait être dans le temps un petit peu plus cow-boy. La borne devait être plus facile peut-être à enlever.
C'est un acte criminel.
Oui,
selon le quotidien.
Non, on ne parle pas des petits piquets de bois avec la peinture dessus. Là, on parle vraiment d'une borne.
D'une rode avec un cap orange là, sur le dessus.
OK, OK. Fait que de quoi qui est vraiment plus significatif qu'un simple petit bâtonnet.
On voit le nom de l'arpenteur sur le cap jaune-orange.
OK. Fait que ça se déplaçait, ça, avant, ça se fait-tu encore ou...
Malheureusement, oui.
OK, ça se fait encore.
Mais tu vois, c'est criminel. Moi, quand j'étais jeune, je me rappelle de l'avoir déjà fait une fois.
Non!
Mais toi, c'était plus pour un mauvais coup.
Oui, exact. Mais tu sais, moi, je savais pas tout là, que c'était criminel.
Non, je sais. Moi aussi, en arrière de chez nous, ça se développait. Tu sais, c'était entre chez nous puis la forêt. Il y a eu un quartier, mais il n'y en avait pas avant. Fait qu'on allait jouer quand même dans le bois, puis on voyait les piquets. Mais ça, non, le piquet comme ça, j'ai jamais touché, moi.
Non, OK.
Puis une journée là, de travail comme arpenteur, ça peut ressembler à quoi? Est-ce que c'est les mêmes tâches qu'on doit faire comme arpenteur versus un technicien? Y a-t-il des choses en particulier qui se distinguent?
Non, c'est ça. Tantôt, on parlait qu'il faut aller sur le terrain et tout ça. En fait, ça, c'est beaucoup plus le travail d'un technicien en arpentage. Donc, c'est une technique. Alors que arpenteur géomètre, c'est beaucoup plus, on est plus à l'intérieur du bureau. Il y en a encore qui travaillent à l'extérieur, mais pour ma part, moi, je suis 24 heures sur 24, quand même pas, mais une journée de travail, je suis dans le bureau. Finalement, c'est plus une job de validation. On arrime tous les mandats, en fait, avec les courtiers, les notaires. On prend plus les décisions, finalement, quand il y a des problématiques au niveau des certificats de localisation. On va appeler les clients, on va appeler les courtiers, tout ça. On peut aussi prendre part, finalement, aux documents en tant que tels. Donc, la mise en plan, faire les recherches, faire le rapport.
Les recherches de titres aussi pour
valider. Les recherches de titres, effectivement. Au règlement municipal aussi.
Puis, il y a certains outils que vous utilisez? C'est des outils de géomatique, dans le fond?
Oui. Notre bureau, en fait, on utilise AutoCAD pour faire le dessin. Et puis, pour faire un logiciel, c'est une application pour faire des calculs. Finalement, on utilise CADARP MENARP, qui est développé par un arpenteur, si je crois bien.
Puis, dans les outils sur le terrain, est-ce que vous avez des pointeurs laser? Est-ce que vous fonctionnez encore avec... Les outils traditionnels?
En fait, nous, on a un GPS, puis on a un robot. Donc, on n'a pas le choix d'utiliser les deux, parce que le GPS, ça nous permet de se localiser, finalement, en position. Tantôt, on parlait de l'application mobile, bien, c'est justement de la géomatique. C'est justement du positionnement.
Mm-hmm.
Donc, on utilise ces instruments-là aussi, puis...
Un robot.
Ouais,
hein? Le petit garçon dedans de moi, le gars techno, un robot.
Oui, c'est ça.
Il fait quoi, le robot?
Bien, c'est lui qui prend les mesures, finalement. Okay. On va se servir beaucoup plus du robot pour... les coins de maison, par exemple. Parce que les GPS, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça prend...
Une vue globale.
Une vue globale. Il ne faut pas que ça soit obstrué. Il ne faut pas que le dessus du GPS soit obstrué. Okay. Sinon, finalement, on n'obtiendra pas le réseau qu'on veut, le signal qu'on veut. Donc, c'est pour ça que les coins de maison, avec la toiture, on n'a pas le choix de les prendre avec le robot. Mmh. Alors qu'une entrée d'auto-asphalte, on va le prendre avec le GPS.
Fait que le robot va aller chercher la précision. Le GPS va être précis, mais pas aussi précis que le robot.
Pas aussi précis. Il va être précis au niveau du positionnement.
OK. C'est bon.
Puis, au niveau du coin de maison, question très technique pour moi personnellement. Est-ce qu'on prend le coin de la maison de fondation ou le coin extérieur avec le revêtement? Parce que, tu sais, c'est des questions qu'on se fait toujours demander. Puis, on aimerait savoir la réponse pour tout le monde.
C'est vrai que toi, tu veux dire le coin là, du solage? ou le coin qui dépasse un peu plus de la maison.
Exact.
Ah, ouais.
Nous, on prend le revêtement, en okay. fait. Ben, si des fois, on peut prendre aussi le solage, là, dépendamment du mandat, mais souvent, c'est le revêtement parce que c'est ça qui dépasse le plus. Donc, si on veut vérifier par rapport aux règlements municipaux que je parlais tout à l'heure, souvent, c'est par rapport au revêtement. Les marges de recul à respecter par rapport aux limites de propriété, dépendamment de dans quelle ville on se trouve, souvent, c'est par rapport au revêtement extérieur des bâtiments.
Ça doit être une des grosses tâches aussi que tu dois avoir parce que les règlements, par exemple, la ville de Lévis versus la ville de Québec versus différents secteurs patrimoniaux ou pas patrimoniaux, ben tu sais, ça peut avoir des impacts aussi au niveau du certificat de localisation selon les différentes normes parce qu'il y a plusieurs informations par rapport à ça aussi qui est décrite là, dans le certificat.
Oui, c'est différent d'une municipalité à l'autre. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on fait un document, il faut toujours aller vérifier dans les règlements municipaux de chaque municipalité dans laquelle on travaille. Sur la Côte-de-Beaupré, c'est différent. À Stoneham, c'est différent. Le Stoneham, on va parler, on a les bassins versants aussi qui rentrent en ligne de compte.
Avec le moratoire, etc. Ouais. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont appliquées là-dedans. Puis, pour réaliser un certificat de localisation, c'est quoi les différentes étapes?
Bien, première des choses, il y a la prise de mesure sur le terrain, comme on parlait tout à l'heure avec le robot et puis le GPS. Ensuite de ça, on va importer les points dans notre fameux AutoCAD pour faire le dessin. Donc, mon équipe terrain va me produire un carnet d'arpentage avec le dessin. Donc, point numéro 1, 2, 3, 4. Bien, c'est mon carré de maison. Donc, moi, quand je vais reproduire le dessin, il faut que je relie 1, 2, 3, 4, par exemple. Donc, ça, c'est le dessin. Ensuite de ça, il faut calculer où on met les limites de propriété, finalement. Donc, on va servir des plans cadastraux, de l'occupation, des fameuses bornes. Et puis, on va remettre ça tout ensemble pour, finalement, savoir où on positionne les limites de propriété. Ensuite de ça, viennent les recherches foncières. Les recherches foncières, donc au registre foncier, les titres de propriété, les servitudes qui grèvent mon terrain. Sinon, ça va être les recherches au niveau des règlements municipaux qu'on parlait tout à l'heure. Donc, dépendamment de la municipalité dans laquelle je me trouve, quelles sont les marges de recul à respecter par rapport aux limites de propriété, par exemple. Ensuite, vient le temps du plan, mettre tout ça en mise en plan. Et puis, le rapport qui est indexé au certificat de localisation, hein, parce que souvent, les gens pensent que c'est juste un plan, mais le rapport est tout aussi important que le plan, là. Et puis, finalement, vient la validation de l'arpenteur géomètre, vérifie tout ce qui a été fait comme travail, s'il manque pas quelque chose, s'il y a des problématiques. Là, on appelle le client, on appelle le notaire, le courtier.
C'est souvent dans ces informations-là qu'ils viennent démarquer ou démontrer certaines problématiques futures ou pas. Par exemple, les servitudes d'Hydro-Québec, des réglementations provinciales, des zones aéroportuaires, etc. Fait que c'est des choses qui sont décrites dans le certificat de localisation qui sont quand même très importantes par rapport à tout ça. Puis, pour notre part, on a eu plusieurs occasions où on a eu besoin de se référer avec des arpenteurs pour différentes questions. Tu sais, il y a des servitudes de tour d'échelle qui, moi, initialement, je connaissais pas ça. Fait que, tu sais, une servitude de tour d'échelle, mais ça te permet d'entretenir ta clôture de ton côté, inversement pour le voisin aussi, pour s'assurer que ça soit là. Puis, tu sais, c'est des éléments quand même importants, des servitudes de passage. Ça peut avoir une incidence important pour un acheteur ou un vendeur, tout dépendamment à qui elle va servir. Fait que, tu sais, c'est des choses qui sont super importantes à voir. Puis, effectivement, que le certificat de localisation n'inclut pas seulement le plan, mais le rapport aussi. Là.
Fait qu'avec le rapport et le plan, c'est, on sait où sont nos limites et qu'est-ce qui passe sur notre terrain. C'est ça le.
Exact.
Le
il vient complémenter les deux avec tout ça. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis, par la suite, on va parler peut-être tantôt là, des différents problèmes qu'on peut trouver les différentes solutions qu'on a par rapport aux différentes problématiques. Puis après ça, on va parler de quelques exemples là, aussi de non-conformité ou d'empiètement ou des choses comme ça. Fait que on va tomber pas mal dans le vif du sujet. Là,
avec, bon, je comprends bien, c'est le bon moment de prendre une pause.
Yes.
On va aller en pause, puis on poursuit par la suite.
La relève radio est à CGMD 96.9. Salut, c'est Tigui. Je veux vous parler de la ressourcerie de Lévis parce que c'est vraiment mon magasin. Ça me tente pas de payer des chemises 100$, moi, dans vie. Pas plus que des jeans. En fait, j'aime ça acheter usagé. Ça me fait sentir intelligent. Puis j'économise pas à peu près pour le linge, la peinture, les meubles, la déco, l'équipement sportif, les outils de cuisine, même de la bouffe. Et j'en passe en masse. Il faut voir d'abord ce qu'a à offrir la ressourcerie 24 rue Charles Lecadieux. C'est pas juste Tigui qui le dit, c'est la logique même.
Qu'est-ce qu'on fait pour que notre entreprise se démarque maintenant?
Il nous faut de la nouveauté. Logo, pub, visibilité, promo.
Ça prend du grand format pour ça.
Ça nous prendrait quelqu'un qui rallie tout au même endroit.
Attends, écoute.
Et oui, Image Express depuis plus de 15 ans. C'est le spécialiste de l'impression grand format. Lettrage, wrapping, affichage, autocollant, cartes, enseignes et vitrines. En plus de leur nouveau événementiel, kiosques, vêtements et plus encore. Experts dans la création et le développement de vos petits et grands projets publicitaires. 418-835-1789. Suivez-les sur Facebook, imageexpress.ca. 418-835-1789. Faites comme nous et impressionnez en grand.
Le cinéma débarque encore une fois à Lévis pour la deuxième édition du Festival interactif de cinéma de Lévis. Vous aurez la chance de visionner des films de tout genre, assister à des conférences avec des pros, participer à des ateliers sur le cinéma et manger ben du pop-corn. Visitez le ficlfest.com.
ficlfest.com
pour plus de détails sur la programmation. Vivez l'expérience cinéma à Lévis du 17 au 19 mai prochain au cégep de Lévis-Lauzon. C'est un rendez-vous! Tu veux devenir ébéniste, secrétaire médical ou infographiste? Tu t'intéresses à la cuisine, à la charpenterie-menuiserie, à la carrosserie, au dessin industriel ou à la fabrication de structures métalliques? Tu peux apprendre tous ces métiers
et bien d'autres sans quitter la Rive-Sud.
Dans les centres de formation professionnelle de la Beauce-et-Chemin, que ce soit à Saint-Georges, Saint-Joseph ou encore à Sainte-Marie, à 25 minutes du pont, nous avons pour toi des formations passionnantes dans des métiers d'avenir. Inscris-toi pour cet automne
à la fppourmoi.com.
La FP pour moi.com.
Bootcamp pour une bonne cause. Vivez une expérience hors du commun. Le Carrefour des enfants de Saint-Malo vous invite le 26 mai prochain au Forge Gym de Québec. Formez une équipe de 5 personnes et venez suer pour une bonne cause. Sur place, des entraîneurs certifiés vous feront vivre une expérience d'une heure d'entraînement complet. Vous n'êtes pas fan de l'entraînement? Supportez l'équipe des jeunes du Carrefour qui participeront à ce défi d'une heure. Tous les fonds recueillis serviront à soutenir les activités du Carrefour des enfants de Saint-Malo. Pour plus d'informations ou pour les inscriptions, visitez la page Facebook Bootcamp du Carrefour des enfants de Saint-Malo.
Je vous le dis, là, c'est pas un secret pour personne. Au Rina Saint-Romuald, du 950 rue de la Concorde, pour tout achat de 25$ ou plus, vous recevez un certificat cadeau de 10$ seulement en mentionnant CGMD. Hey, 10$ parce que t'as dit 4 lettres. Cher la lettre, là. Mais c'est seulement au Rina Saint-Romuald, 950 rue de la Concorde. Profitez-en.
L'alternative radiophonique
CGMD 96.
De retour dans la traverse, en ce jeudi 26 avril, déjà 9h22, presque la moitié de l'émission. Et c'est ce que Alexandra disait durant la pause. Ça va vite, ça va vite.
Oui, oui.
Donc, on est rendu où, là?
Mais dans le fond, on est avec Alexandra Labrec, oui, arpenteur-géomètre de Lefrançois, arpenteur-géomètre. Puis, elle vient nous parler un peu de sa profession, un peu de son travail, sa réalité, etc. Puis, je pense que là, on était rendu à différents problèmes qu'on pourrait retrouver là, sur des certificats de localisation, mm-hmm. parce que c'est pas toujours conforme qu'est-ce que les gens font sur leur terrain. Tu sais, des fois, on va dire, ah, ben, crime, moi, je vais faire un cabanon, demande pas de permis, installe un cabanon, puis finalement, peut être non conforme parce qu'il est trop près des limites, surplombe le terrain voisin. Peut avoir quand même plusieurs problématiques. Puis l'arpenteur, ben son travail ou son objectif, c'est de venir faire le constat de qu'est-ce qu'il y en a exactement sur le terrain, mm-hmm. les différents éléments qui sont positionnés dessus. Fait que c'est quoi les différentes problématiques ou qu'est-ce qu'on voit là généralement par rapport à tout ça? Puis est-ce qu'il y a des solutions qu'on peut avoir selon la problématique?
Oui, bien, les solutions, c'est surtout le notaire à la fin qui va transiger, qui va décider vers où on s'enligne pour régler le problème. Pour les problématiques, ben là, tu en as donné déjà une. Effectivement, les remises ou les constructions qui sont non conformes par rapport aux règlements municipaux de la ville, ça peut être non seulement par rapport aux distances, aux limites des propriétés, mais ça peut être aussi au niveau de la superficie. Hein, si le garage est plus gros que la maison, c'est ouais. Pas normal.
Mon cousin s'est fait un gros garage. T'es sûr, t'es correct? Oui, j'ai tous mes papiers. Ça doit être ça qui parle,
c'est
les papiers.
Ça. En autant qu'il ait demandé ses permis de construction.
Oui, aussi.
Ouais. Sinon.
Permis de construction, s'assurer que. Mais on a tout ça sur le certificat, le cabanon, la grosseur que j'ai le droit de construire? Non. Mais on valide avec vous pour s'en assurer.
C'est ça. Okay. Le certificat de localisation, on vient souvent dire que c'est un état de santé de la propriété.
Ah, okay.
Donc, nous, notre mission, c'est la constatation, comme Jean-François a dit. Donc, on constate les irrégularités. D'autres irrégularités qu'on peut retrouver, c'est les empiétements. Finalement, une entrée d'auto qui peut empiéter chez le voisin, la remise qui empiète directement chez le voisin. Une des solutions qu'on peut proposer à ce moment-là, c'est une servitude de tolérance où on peut déplacer aussi justement la remise si c'est pas compliqué de la déplacer. Sinon, quand on parlait tout à l'heure des remises non conformes, là, une façon de régulariser les situations ou les garages, on peut faire une demande de dérogation mineure à la ville. Si jamais, je vais donner un exemple, si la personne a demandé son permis, puis il était supposé respecter 25 mètres carrés, puis là, on est à 35 mètres carrés, mais la situation existe depuis plusieurs années, bien là, on peut faire une demande de dérogation mineure en disant que, bon, ça fait plusieurs années que c'est comme ça, les voisins se sont jamais plaints, donc est-ce qu'on peut avoir...
Être tolérant un peu, parce que c'est correct ça. Quand même.
Exactement.
S'il n'y a pas de problème majeur lié à ça, évidemment.
Exactement, oui. S'il n'y a pas non plus de vue non conforme, ça n'est une autre problématique. Les fenêtres, selon le Code civil, on ne peut pas avoir de fenêtres à moins d'1,50 m des limites de propriété. Donc, si en plus le garage ne respecte pas la superficie et puis qu'il y a des fenêtres, pas sûr que la demande de dérogation mineure va passer à la ville.
Puis, est-ce qu'on peut avoir du MacTac dans nos fenêtres pour celles qui sont trop près?
Ça, c'est pour les givrés, là.
Ouais. C'est ça, j'allais dire. C'est quoi, ça, du MacTac? On a dit un nom d'ormartier.
Ouais, je pense que c'était le truc qu'on mettait sur nos livres au secondaire.
Oui, c'est ça. Oui, ça peut être une façon de régler les vues ou les obstruer, tout simplement, les placarder. Parce que les fenêtres, les ouvertures, c'est qu'ils ne doivent pas être transparentes, finalement. Selon le Code civil.
Puis même si dans un cabanon, on n'a pas le droit d'avoir une fenêtre transparente, parce que ça pourrait te permettre de regarder chez ton voisin, c'est ça?
C'est ça.
Ah oui?
Ouais.
Puis au niveau des empiétements, je voulais juste vérifier quelque chose aussi, là. C'est qu'est-ce que c'est un empiétement? Est-ce que c'est parce que on a un usage particulier de notre bien, mais malheureusement, il n'est pas sur notre terrain, puis il est sur le terrain voisin? Tu sais, tantôt, tu parlais de bordure ou de l'asphalte ou de notre entrée d'auto, etc. Fait que ça veut dire que c'est comme si mon entrée d'auto, par exemple, était un pied chez le voisin. Bien ça serait considéré comme un empiétement.
Oui.
Au même titre que si jamais j'avais un cabanon qui était supposé d'être directement sur la ligne, qui finalement est 20 cm chez le voisin, bien là, dans le fond, je viendrais empiéter sur le terrain du voisin, c'est ça?
C'est ça, parce que c'est une construction finalement qui vient empiéter directement chez le voisin. Alors que quand on va parler d'apparence d'empiétement, qui est tout autre chose.
Non, c'est une subtilité ici. Là.
Subtilité. Là, ça va être par rapport aux occupations telles que les clôtures. Si la clôture n'est pas directement mitoyenne, directement sur la ligne, par exemple, moi, je m'érige une clôture 12 pouces vers mon terrain, bien, le voisin, lui, il ne le sait pas. Fait qu'il va tondre son gazon jusqu'à la clôture,
ouais.
Mais la partie de gazon qu'il entretient, c'est considéré comme de l'empiétement.
Fait qu'il ne faudrait pas qu'il l'entretienne.
C'est ça. Il faudrait que ça soit moi qui l'entretienne.
OK.
Que je viens de dire à mon voisin,
aller, okay.
Je l'ai mis à l'intérieur de chez moi. Donc, ce petit bout-là, je vais l'entretenir parce que c'est moi qui ai payé pour ma clôture. Tu t'en voulais pas une, je l'ai mis chez nous, mais je vais entretenir mon petit bout de terrain.
C'est là que ça devient important d'avoir du bon voisinage, puis d'avoir des ententes avec nos voisins, parce que tu sais, là, t'es obligé de passer chez le terrain du voisin après ça pour venir
tendre
ta pelouse.
Ou si le voisin lui dit, écoute, là, ce qui est là, c'est tatoué, fait que j'ai pas à m'en occuper. Ouais, ça peut aller dans l'autre côté aussi. Ouais. Fait qu'une clôture peut être sur la ligne comme d'un côté, mais avoir l'air d'être sur la ligne.
C'est ça.
Comme ma clôture entre moi et mon voisin, que je parlais un peu à la pause, elle ne sait pas si c'est sa ligne ou est dans mon terrain. On va aller fouiller sur le
mais certificat. Tu vois, moi, j'ai posé une clôture chez nous, là, puis on a fait venir des professionnels pour installer la clôture. Nous, on a dit, ben, on va se positionner là, à là, puis on va...
Oui, parce que le professionnel, lui, tu lui dis ce que tu veux, c'est pas à lui à checker s'il peut la planter là, lui.
Non, exact. Moi, je l'ai contracté pour le faire. Mais d'un autre côté, moi, j'avais tracé une ligne. J'avais écarré mes choses pour être sûr d'être conforme avec le règlement, avec le certificat de localisation, avec le plan qu'on avait, etc. Puis tu vois, bien que je pensais que c'était droit, j'ai empiété sur une partie du voisin, là, sur une partie du terrain. C'est pas tellement grave parce que lui, ça vient servir lui aussi, puis il était en accord, il était là quand on a posé notre clôture. Mais
t'as comme un pied l'autre bord, mettons.
Non, pas même un pied, pas. C'est moins de 5 cm.
Ah, okay.
Mais reste
quand même.
Je suis quand même chez lui.
Ah oui. À 5 cm près, on s'entend.
Non, c'est ça. Mais pour revenir au certificat de localisation, c'est correct que tu t'en serves pour poser ta clôture, mais c'est pas les fins réelles. Certificat de localisation. Je sais que beaucoup de gens le font.
Okay. En fait, qu'on peut s'y fier, mais non.
Pas vraiment. Okay. C'est vraiment pour une transaction immobilière ou un refinancement.
Mais si on regarde sur le certificat que ça a été localisé, on sait que ça va là, mais...
Ça vaut risque et péril.
Okay.
On va dire ça comme ça.
Ah, okay.
Puis sinon, si vous voulez être sûr qu'elle soit mitoyenne, faites appel à nos services, puis on va aller vous poser des belles bornes.
Ah, OK. Faites faire installer des bornes.
Okay. Ligne, ouais.
Puis lui, le technicien va savoir... fier sur le certificat parce que lui, c'est son travail.
En fait, on va faire
non, ou il va refaire une autre.
On va faire un autre avis préliminaire, on va refaire un calcul des limites, puis là...
Faire une petite mise à jour, si on veut, pour s'assurer que c'est toujours d'actualité.
Exact.
C'est quand même important. Ouais, on fait juste parler de clôture, puis c'est quand même important.
Ah ouais.
On dit, tu sais, moi, je vais me faire une clôture en bois, on va faire ça en fin de semaine, une coupe de bière entre amis. Puis, tu sais, finalement, ben, ça se passe.
On apprend qu'il faut aller chercher un permis pour faire une construction.
Oui, effectivement.
Entre autres, à la base, puis qu'il faut aussi s'assurer que.
Quand tu arrives pour vendre ta propriété, ben, tu te rends compte que finalement, une bière ou deux de trop, ben, tu as mis la clôture chez le voisin.
Elle est un peu croche.
Exact.
Ou même sans bière, là. Ça, tu peux
croche. Oui, effectivement, parce que moi, j'avais pas pris de bière, puis je m'avais pas... Tu sais, j'avais pris mes mesures, puis je m'avais écarré pour m'assurer que ça soit conforme.
Ça fait tout ça droite, puis...
Puis finalement, j'ai empiété quand même de 5 cm.
Bon.
Fait qu'on vient dire aujourd'hui que je suis un bad boy.
Oui, et voilà.
Je prends des notes.
Puis après ça, est-ce qu'on a des différentes contraintes, des contraintes naturelles, des fortes pentes, des bassins versants? Tu sais, c'est des choses qu'on entend beaucoup avec le moratoire de la Ville de Québec. Ça a des impacts quand même assez importants. Une rivière, les zones inondables, il y a différentes durées dans tout ça aussi. Là. Qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive, des situations comme ça?
En fait, c'est ça. On peut se trouver dans une zone inondable, une plaine inondable. Sinon, si on a une rivière à proximité du terrain, il y a une bande de protection riveraine qui vient s'appliquer, dépendamment dans quelle municipalité on se trouve. Mais dans la majorité des cas, c'est dépendamment du talus du terrain. Finalement, la bande de protection riveraine, est-ce que ça va être 15 ou 20 mètres qu'on va appliquer? Et puis, quand on se trouve en bassin versant, là, les règlements viennent encore plus serrés. On peut se trouver avec une bande de protection riveraine de 25 mètres. Sinon, il y a aussi les fortes pentes qu'on parlait tout à l'heure. Encore une fois, dans les fortes pentes, il y a une bande de protection qui doit être appliquée pour ne pas avoir de construction dans la pente, finalement, dans la forte pente. Sinon, on peut se trouver dans des zones à glissement de terrain, des zones à risque. Ça aussi, c'est à vérifier. Sinon encore, on parlait tout à l'heure des sites patrimoniaux. Par exemple, l'île d'Orléans au complet, c'est un site patrimonial. Donc, avant de faire une construction, il faut toujours vérifier auprès de la ville si quel revêtement j'ai le droit de mettre, par exemple. Il y a toutes sortes de normes par rapport à ça. Il faut vraiment faire attention.
Puis il y a des milieux humides aussi, là, où est-ce qu'on peut avoir certaines végétations ou animaux à protéger ou des choses comme ça. Puis ça aussi, ça vient peut-être limiter le plein potentiel de notre terrain qu'on veut acheter ou des choses comme ça. Puis, tu sais, y a-t-il des choses en particulier qu'on peut faire ou on peut savoir? Est-ce que vous localisez ces situations-là?
Par exemple, quand on fait des projets de lotissement, quand on a un grand terrain qu'on veut morceler en plusieurs terrains, les promoteurs arrivent avec leur... J'ai acheté ce terrain-là, j'aimerais ça faire tel terrain. Bien là, c'est sûr qu'il faut aller faire un levé préliminaire pour voir qu'est-ce qui se trouve. Puis là, des fois, on tombe sur des milieux humides. malheureusement. Et puis là, faut les relocaliser ou faut faire affaire avec le ministère pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Est-ce qu'il y a moyen de s'arranger, tu sais, puis tout ça.
Puis un des choses qu'on doit voir régulièrement comme des non-conformités, moi, je pense que c'est les piscines. Est-ce que les piscines au Québec sont conformes?
Ça a l'air d'un gros sujet, ça.
Dans la majorité des cas, oui. Autre chose que, parenthèse, les fils électriques, même si, par exemple, il n'y a pas de servitude, là, quand c'est trop proche des fils, c'est aussi important à vérifier. Là. On ne peut pas mettre une piscine juste en dessous d'un fil qui alimente la maison, finalement.
Non, non.
C'est dangereux.
C'est le fil, il arrive quoi que ce soit.
Ben, quand
ou juste si on l'eau hein, qui revole. Ou,
c'est ça, ou quand tu passes le petit balai dans
ouais,
ta piscine.
Parce
là.
Que moi, ma piscine est dans un endroit, puis le fil, il part carrément à biais de côté. Ouais.
Mm.
J'ai un ami qui a dû relocaliser soit la piscine ou carrément son fil. Parce que là, ça passait par en bas son terrain, la seule place logique qu'il pouvait avoir une piscine. Fait qu'il a fallu qu'il fasse changer par Hydro-Québec son mât et tout. Hein.
C'est ça.
Une sale job, mais pour être légal, parce qu'il voulait sa piscine 2 mois par année.
Sa piscine 2 mois par année.
On s'entend au Québec.
Piscine, je pense que ça prend vraiment absolument un chauffe-eau, là, surtout
ouais,
au Québec.
Ou une cour orientée sud. Environ. En tout cas, moi, chez nous, j'ai pas de chauffe-eau.
Et le chauffe-eau.
J'ai quand même une belle chaleur.
Ah ouais, t'as une belle chaleur.
18 pieds, c'est correct. Okay. Une 27 pieds, oublie ça, là.
Puis, c'est la piscine, c'est une chose, mais il y a aussi la plateforme de piscine, le filtreur, le chauffe-eau. Ils ont toutes des distances à respecter par rapport aux limites, puis par rapport à la piscine en tant que telle. Par exemple, à la Ville de Québec, on peut pas mettre son filtreur à moins d'un mètre de la piscine. Pour pas que les enfants grimpent, par exemple.
C'est ça, je pense que c'est une question de sécurité qu'on avait par rapport à tout ça. Là.
Oui, oui.
Puis, tu vois, tu dis que majoritairement, les piscines sont conformes. Moi, j'ai souvent plus l'impression, quand on vend certaines propriétés, que les piscines sont toujours dérogatoires à la réglementation. Parce que, tu sais, on se retrouve maintenant avec des terrains de 6 000, 7 000 pieds carrés. La maison occupe quand même 1 000, 1200 pieds carrés. Puis après ça, on a le patio, on a le garage, on a la remise. Il reste pas beaucoup de terrain. Puis, tu sais, il y a les servitudes d'Hydro-Québec, souvent en fond de terrain, qui vont faire en sorte que ça vient limiter un peu le terrain. Fait que, tu sais, souvent, les gens vont dire, ah, ben, crime, je vais installer ma piscine là, puis tu sais, on prendra les risques en conséquence, mais tu sais, souvent, il y a beaucoup de réglementations qu'on doit voir, puis tu sais, souvent, on va pouvoir le constater sur le certificat de localisation. Fait que c'est super important. Moi, je crois, dès qu'on a le projet de vendre sa propriété, de commander son certificat de localisation dès le début du projet.
Fait que la piscine va se retrouver là-dessus, en fait.
Oui.
C'est une construction.
Oui, oui, oui.
Exact.
Puis on la voit comme quelque chose pour divertir ou pour se retirer, mais c'est une construction.
Oui.
Puis c'est très important d'avoir les yeux d'Alexandre comme oui, oui.
Oui, oui.
Puis tu sais, au-delà de ça, qu'est-ce qui est encore plus important là-dedans, c'est que tu sais, le fait de le faire au départ, commander son certificat de localisation, ben, on va pouvoir avoir le constat complet à savoir si notre propriété est conforme ou pas.
Mm-hmm.
Puis suite à ça, quand il va arriver le début de la mise en marché, la vente de la propriété, bien, il n'y aura pas de mauvaise surprise qu'on va apprendre souvent chez le notaire pour dire, ben écoutez, votre cabanon en empiétement surplombe le terrain voisin, votre piscine est localisée dans la servitude d'Hydro-Québec, etc. Puis c'est plein de correctifs qui pourraient être pris en amont au départ pour pouvoir faire ces différentes corrections-là puis de faire en sorte qu'on puisse être en mesure d'être conforme pour la vente de notre propriété.
Est-ce que ça peut annuler la vente ou faire...
C'est ce que j'allais dire,
ouais.
C'est moins sexy pour l'acheteur en sachant
c'est
que
ça.
La piscine, la propriété qu'il va acheter, la piscine est non conforme.
Mais tu es rendu chez le notaire, c'est tout ce genre d'événement qui va être rendu chez le notaire, ça va être levé avant.
Tu sais, il y a certains avantages qu'on peut... Ben, certains avantages, oui et non, mais tu sais, il y a certaines solutions qu'on peut mettre de l'avant.
Mm-hmm.
Pour certaines situations, tu sais, le cabanon est souvent considéré non permanent parce qu'il n'y a pas de fondation.
Ouais,
c'est des choses qu'on peut bouger. La piscine, c'est un peu la même chose. Fait
ben
que,
oui, la piscine, elle se déplace. Une fois vidée, elle se déplace.
Il y a souvent des tolérances qui vont être permises avec ça,
okay.
Mais souvent, il peut avoir des assurances-titres qui vont se prendre pour mettre un plaster, si on veut, sur la problématique.
Ça, c'est pas correct, mais on va chercher une assurance qui va couvrir ça au cas où.
Ça vient mettre un plaster sur le bobo, ça le corrige okay. pas. Ça vient mettre un plaster sur le bobo. Mais la prochaine fois qu'il va avoir une autre transaction, si le bobo est pas corrigé ou réparé, ben il va falloir reprendre une nouvelle assurance titre par rapport à tout ça. Fait que, tu sais, il y a certaines situations qui peuvent se corriger quand même bien. Ben, pas corriger, mais plutôt prévaloir avec une assurance titre. Fait que, tu sais, c'est quand même bien là pour ces différents éléments-là, mais tu sais, idéalement, c'est toujours d'avoir une propriété qui respecte en tout point les différentes réglementations, autant municipales, provinciales ou, tu sais, gouvernementales, tout dépendamment des secteurs, de la localisation, etc. Là.
Je rajouterais aussi, quand on parlait tout à l'heure du garage qui est non conforme, une autre vérification qu'on va faire, c'est le permis de construction, en quelle année il a été émis. Et puis, c'était quoi les règlements à ce moment-là?
Faut prendre ça en compte aussi.
Oui, ben parce que là, nous, on se prononce sur le garage. Est-ce qu'il est conforme au règlement actuellement en vigueur?
Mm-hmm.
Non, mais OK, mais peut-être qu'il était conforme au moment qu'il a été construit.
Faut prendre ça en compte parce qu'on peut pas aller...
La réglementation évolue aussi. Mm-hmm. Tu sais, les normes de 1900 n'étaient pas les mêmes que 2018.
Non, puis on le voit à plusieurs niveaux, je pense.
Puis, oh oui, effectivement. Puis c'est correct aussi que ça évolue, puis il faut que ça évolue aussi. Mais, tu sais, dans des situations comme ça, où justement, le garage, est-ce que les arpenteurs se prononcent sur des droits acquis, pas de droits acquis, etc.? Parce que les gens disent, oh non, mon cabanon, ça fait 20 ans qu'il est là. Mon garage, ça fait 20 ans qu'il est là. C'est un droit acquis, j'ai le droit de l'avoir. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous prononcez là-dessus?
On peut pas se prononcer sur les droits acquis, malheureusement. C'est seul un juge qui peut vraiment se prononcer là-dessus. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est que le garage a été érigé en conformité au règlement qui est en vigueur au moment de sa construction. Point.
Ah.
Donc, rendu là...
Rendu là après, c'est...
C'est le notaire à voir s'il est à l'aise avec ça.
Fait que là, vous venez faire une datation un peu selon les différents permis, selon les différentes installations, avec l'historique, les anciens certificats, etc.
C'est
etc.
ça. C'est pour ça que ça nous aide d'avoir les permis de construction. Quand on les a pas, quand la ville les retrouve pas, là, ça devient un petit peu plus compliqué.
Oui, maintenant, c'est encore plus simple aussi. Là, on numérise tous nos documents. Ouais, on est capable d'avoir accès à nos documents très rapidement.
C'est sûr que les maisons construites dans les années 1900, s'il n'a pas été numérisé au fil du temps, il faut trouver l'origine, l'original.
Puis, tu sais, c'était pas toujours nécessaire d'avoir un permis non plus. Là, on pouvait, à une certaine époque, faire ce qu'on voulait aussi. Tu es propriétaire, mais fais ce que tu veux, tu es chez vous quand même.
C'est
puis, tu sais, ben, la réglementation arrive parce que, justement, il y a des gens qui en abusent.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, puis il faut venir conformer tout le monde avec... des normes de conduite, parce que sinon, il va toujours avoir de l'exagération là-dedans, puis c'est ça qu'on veut pas avoir. Là.
Mmh, tout à fait.
Avant de se prononcer sur, justement, s'il était érigé en conformité anciennement, il faut avoir une preuve, tu sais, il faut avoir un permis, il faut avoir une... Il faut que ça soit mentionné dans un titre de propriété, par exemple, quand ça a été vendu. Ça vient avec une maison et un garage. Bon, mais là, on sait qu'à peu près en quelle année ça a été érigé. Tu sais, il faut avoir un... Il faut s'aligner à quelque part.
Mm-hmm.
On ne peut pas deviner, nous, si la construction de la maison a été faite en 1960, le garage a été fait en même temps. On ne le sait pas.
Il faut trouver les papiers là-dessus. Il faut les avoir pour pouvoir.
Exact.
On va aller prendre une autre petite pause. Ça va vite, en effet. Une dernière pause et on va conclure après ça avec notre invité. Donc, restez là, chers auditeurs.
96.9.
Pour vos besoins en matière de sécurité, pensez Sécurité Accès. Basée à Lévis depuis maintenant 20 ans, Agence Sécurité Accès est la référence en matière de sécurité sur la Rive-Sud, également présent à l'échelle de la province. Marco Lefebvre, propriétaire et gestionnaire, assure un service de qualité en étant proche de ses clients comme de ses agents. Optez pour un service de sécurité personnalisé adapté à vos besoins, quels qu'ils soient. Entreprise aux divers services, entre autres.
Agence Sécurité, de premier soin, d'unité canine, de signaleur, de patrouilleur et beaucoup plus.
Ils sont en recrutement constant en passant. Joignez-vous à l'équipe. Sécurité Accès, votre référence en matière de sécurité. www.sécuritéaccès.com. Sécurité Accès pour une protection répondant à vos attentes. 418-838-8804.
418-838-8804.
Red Beard Survival, l'école de survie au Québec, a une nouvelle activité. L'initiation à la survie en forêt. Venez passer une demi-journée dans le décor féerique de la montagne du domaine du radar, tout en apprenant les trucs de survie de nos instructeurs chevronnés. Un petit feu en forêt, des ateliers pratiques, des défis et bien plus dans une ambiance familiale et décontractée. Le tout pour seulement 50$ tout inclus.
Oui, 50$ tout inclus.
Amenez la famille, les amis et les collègues pour réserver vos place www.redbeardsurvival.ca.
Redbeardsurvival.ca.
Tu veux devenir ébéniste, secrétaire médical ou infographiste? Tu t'intéresses à la cuisine, à la charpenterie-menuiserie, à la carrosserie, au dessin industriel ou à la fabrication de structures métalliques? Tu peux apprendre tous ces métiers
et bien d'autres sans quitter la Rive-Sud.
Dans les centres de formation professionnelle de la Beauce-et-Chemin, que ce soit à Saint-Georges, Saint-Joseph ou encore à Sainte-Marie, à 25 minutes du pont, nous avons pour toi des formations passionnantes dans des métiers d'avenir. Inscris-toi pour cet automne
à la fppourmoi.com.
La fppourmoi.com.
C'est le temps des pneus!
Oh oui, Tigui!
Ça va être beau! La meilleure place, c'est Automobile Prestige DG!
Oui, on a compris, ça va être beau, Tigui, merci. Anyway, on le sait qu'il faut que t'ailles chez Auto Prestige DG pour ça. Si tu vas ailleurs, tu vas payer plus cher. On a vérifié, ils ont le meilleur prix pour le changement de pneus. Jusqu'à 50% moins cher qu'ailleurs. Fait qu'embarque dans ton char, pis away chez Auto Prestige DG. 6006 Boulevard Sainte-Anne à Lange-Gardien. C'est là que ça se passe pour les pneus. Ça fait fini là.
Vous avez le goût de liberté et d'évasion? Les écoles de conduite technique vous invitent dès aujourd'hui à suivre vos cours de moto et scooter sur la rive sud comme sur la rive nord. Nous avons des horaires flexibles et des cours disponibles 7 jours sur 7. Bientôt 16 ans, informez-vous sur notre programme de cours de conduite automobile offert dans nos 12 succursales. Vous pouvez vous inscrire et assigner vos cours en ligne sur technique.ca ou nous contacter au 418-529-3868. Technique, grand formateur de conducteurs.
www.technique.ca.
Vous construisez des maisons? Vous êtes autoconstructeur? Vous vous faites construire une maison?
Assurez-vous que l'air n'entre pas avant que vous y fermiez vos murs.
Parce que l'air qui entre, c'est de l'argent qui sort.
Contactez Réseau de Vinci, les experts en bâtiment.
Vous voulez vendre ou acheter une maison?
Dormir en toute tranquillité?
En faisant inspecter votre maison par les professionnels de Réseau de Vinci.
Pour des conseils justes et précis.
Réseaudevinci.com. Recommandé CA.
Avec un nouveau bureau sur la rive sud pour mieux vous servir.
Les mercredis et dimanches dans les shakers cuisine et mixologie, c'est le vin au cost. C'est incroyable, mais tu payes le vin au prix de la sac. C'est comme ça le shaker. Tous nos vins rouges, vins blancs et même tous nos champagnes sont au prix coûtant de midi à 3h du matin. Ouais. Les meilleurs tartares au monde et le vin au cost, c'est tous les mercredis et dimanches dans vos shakers. Ça explique peut-être pourquoi les shakers sont toujours pleins. Peut-être. Shaker Sainte-Foy, Lévis, Cap-Rouge et Charlebourg.
You're now listening. 96.9.
La radio de Lévis, la station du Mont-Fly. Here we go.
De retour dans la traverse, Louis Seb à la barre de l'émission et on est rendu dans la dernière portion. Ça va vite une heure, ça va vite une heure, je l'avoue, mais 5 jours par semaine, ça compense. Ça fait 5 heures au bout de la semaine. Alors toujours avec Jean-François Morin, notre invité, Alexandra Labrec. Et j'ai eu un doute là dans mon esprit. Je me suis pas trompé.
C'est bien parfait. Puis tu sais que moi, je suis dans le milieu de l'immobilier. Puis oui. On transige quand même beaucoup de transactions. Puis c'est quand même un élément important, le certificat de localisation. Mm-hmm. Puis trop de gens prennent ça à la légère. Mais tu sais, c'est super important d'avoir un certificat de localisation qui va démontrer l'état des lieux pour s'assurer que ce qu'on va acheter ou qu'on va vendre va être conforme aussi à la réglementation. Puis pas arriver avec des problèmes de titre. Tu sais, des fois, avec des empiétements, c'est toujours un peu moins intéressant. Quand on voisin, finalement, tu sais, on a un terrain de 100 000 pieds carrés, deux voisins, un à côté de l'autre, mais il y en a un qui a décidé de mettre sa piscine sur ton terrain, puis sa piscine est creusée. Ça a quand même une grosse problématique par rapport à tout ça. Peut-être que c'était dans ton fond de terrain, puis ça te dérangeait moins. Mais quand on arrive puis que ça vient déborder sur ton titre de propriété ou ton terrain, si on veut, bien à ce moment-là, ça devient toujours un peu plus tannant.
Mais là, on parle de ce qui est visible, mais ça, par exemple, ce qui est invisible, les tuyaux qu'il peut avoir sur le terrain, est-ce que ça, vous traitez ça aussi? Ce qu'on voit pas, non?
Ça fait partie des servitudes.
Servitudes, OK. Fait que ça a déjà été déterminé auparavant.
Bien, en fait, c'est quand on fait nos recherches au registre foncier, okay. On peut trouver, par exemple, les servitudes d'aqueduc.
C'est
ça. Sortie d'aqueduc, on ne voit pas le tuyau passer sous la terre, mais on le sait par cet acte-là qui a été publié au registre foncier qu'il y a une servitude d'aqueduc à cet endroit-là.
OK.
Ben, c'est une super bonne question. Puis ça me fait penser à quelque chose aussi. Tu sais, il y a certaines propriétés qui, eux, vont être alimentées, par exemple, par des services d'électricité souterrain ou des choses comme ça. Puis est-ce que vous faites des vérifications avec, par exemple, Excavation au Québec ou des choses comme ça pour savoir s'il y a déjà eu des demandes d'excavation faites sur des terrains? Là, parce qu'on a eu une propriété à vendre sur la rue Fraser. Puis justement, là, il y avait l'alimentation électrique là, qui était faite souterraine, etc. Puis on avait fait des vérifications. Puis on était capable de savoir là, à quel endroit que c'était, etc. Là.
Bien, c'est ça. Encore une fois, c'est encore un autre type de servitude. Hydro-Québec ou Bell Canada. Donc, il faut juste être capable d'établir où se trouve l'assiette du fonds servant, qu'on appelle la servitude, pour être sûr que, justement, on ne va pas excaver à cet endroit-là.
Puis, si jamais on est un acheteur, là, est-ce qu'on exige d'avoir un nouveau certificat de localisation?
C'est certain que, moi, en tout cas, quand j'ai acheté ma propriété, là, ben, je prends ma paroisse, c'est sûr, mais c'est une propriété qu'on achète. Là, on veut être sûr que tout est conforme.
Puis tu parlais tantôt, c'est l'état de santé. Donc, tu veux savoir si tu es encore en santé.
Oui, exact. Puis tu veux savoir qu'est-ce que tu achètes d'un autre côté.
C'est ça.
C'est chez vous, puis tu vas pouvoir en avoir un usage.
Moi, ça m'apparaît logique. C'est sûr qu'Alexandra, comme tu dis, tu prêches pour ta paroisse, ouais, c'est correct. Mais moi, ça m'apparaît, je suis complètement externe, ça m'apparaît comme logique d'avoir... d'exiger un nouveau certificat, ou du moins d'en avoir un là, qui
exact,
est récent.
Un
pas celui de 1950, quand le terrain a été acheté. Là,
c'est ça, mais quand on dit un certificat à jour, c'est un certificat qui représente l'état des lieux actuels.
C'est ça, c'est sur le certificat que tu pars pour acheter, il n'y a pas de piscine, puis là, il y en a une, ben,
exact.
Ça dit déjà de quoi sur la validité. Là.
C'est ça, puis quand on parle de certificat de localisation à jour, en fait, il y a plusieurs possibilités de savoir s'il est à jour. C'est est-ce que le numéro de lot a changé? Est-ce que j'ai fait des nouvelles constructions? Est-ce que ça fait justement plus de 10 ans qu'il a été fait? Ça, c'est toutes des questions qu'il faut se poser à savoir si le certificat est à jour ou non.
Puis le 10 ans, c'est parce qu'il y a un droit au niveau du Code civil par rapport à tout ça, hein? C'est le droit de prescription. C'est-tu à cause de ça qu'on est obligé de faire un nouveau certificat?
En fait, c'est plus au niveau de l'institution financière qui va prêter...
qui va exiger d'avoir un nouveau certificat de localisation.
Ça dépend c'est laquelle, mais des fois, ça peut jouer entre 5 ou 10 ans.
OK. Puis, si jamais on a des conseils à donner aux auditeurs, est-ce qu'il y a des conseils en particulier qu'on devrait donner? Par exemple, j'ai un projet de construction, un agrandissement ou des choses comme ça. Est-ce que je fais juste un esquisse sur ma feuille de papier puis je vais à la ville ou on est mieux de faire...
Effectivement, moi, j'irai directement à la ville. Si, mettons, c'est un projet d'agrandissement afin de voir c'est quoi les différentes personnes que je dois contacter. Donc, architecte, arpenteur géomètre, etc. Donc, avant de faire tout projet de construction, il faut s'informer à la ville. Parce que c'est certain qu'il va falloir un permis de construction. Sinon, ben, en tant qu'acheteur, d'exiger un certificat de localisation, ce serait quand même une bonne chose. Et puis, tout à l'heure, on parlait d'ériger des clôtures sur les limites de propriété. Peut-être juste faire attention à ce niveau-là pour être sûr qu'elle soit saline, par exemple, ben, d'aller poser des bornes.
Exact. Puis pas de s'écarrer avec ton tape à mesurer. Non, ça fonctionne un peu moins bien.
En bref, faites appel à un arpenteur géomètre.
C'est bon.
Puis dans le fond, là, c'est quand même le fun. Moi, j'ai trouvé ça le fun là, de pouvoir parler de ça. Il y a plusieurs sujets qu'on aurait pu parler ici. Là,
je regarde juste qu'est-ce qu'on n'a pas parlé puis qui était sur la feuille. C'est dur de s'en tenir. Il y a des questions ponctuelles là, comme ça. Qui.
Exact. Il y a des procès verbaux de bornage aussi quand les voisins chicanent. Puis là, il dit non, t'es chez nous, non, t'es chez moi, puis les tu sais, on peut aller jusqu'à se faire un, je pense que c'est comme ça s'appelle, un procès de bornage.
Oui.
Puis dans le fond...
tout est borné, ouais, on va...
fait que là, ils viennent tracer une ligne officielle que cette ligne-là vient définir les deux.
Pourquoi chacun aurait son certificat, puis que les certificats... fit pas.
Ouais, ou des chicanes, des fois, là, tu sais, ma clôture, justement, était chez le voisin, puis là, il dit non, c'était ma clôture, etc.
Si chacun sort certificat, normalement, ça devrait fitter.
Pas tout à fait, parce qu'un certificat, c'est l'opinion de l'arpenteur qui le fait.
OK.
Donc, moi, je peux avoir une opinion sur la
c'est
position des limites.
C'est pas une science infuse. Là,
non, c'est ça. Peut-être que si c'est à refaire avec un autre arpenteur, ben peut-être qu'il va avoir une petite différence.
Une opinion différente aussi. Là. Fait que, effectivement, c'est une question là, de bon sens pour tout le monde aussi. Puis, dans le fond, on a parlé aussi 4 ans quand même d'études en géomatique.
Oui.
À l'Université Laval, ça se donnait?
À l'Université Laval, effectivement.
Pour être technicien, ça se donne à quel endroit? Est-ce que tu es ou quoi?
Je sais qu'il y a une technique qui se donne au Cégep Limoilou, ou sinon, c'est le DEP à Neuchâtel.
OK.
Oui.
OK, parfait. Puis vous, je vais juste parler comme ça là, de votre bureau. Est-ce que vous êtes plusieurs arpenteurs, plusieurs techniciens?
En effet, on est deux arpenteurs géomètres. Il y a moi et puis il y a Thierry Lefrançois. Sinon, il y a des techniciens à l'intérieur aussi. Nadine et puis Yannick. Et puis, il y a des techniciens à l'extérieur. Chloé et Frédéric. Ah, les salue.
Ouais, on dit bonjour à toute l'équipe. C'est vraiment le fun. Merci d'avoir permis à Alexandra de venir avec nous pour l'émission, parler un peu du certificat de localisation, parler du métier de l'arpenteur géomètre. C'est des gens qu'on côtoie régulièrement dans notre profession. Puis, je trouvais ça quand même intéressant de pouvoir amener un petit clin d'œil sur différents éléments au niveau du certificat de localisation, puis qu'on puisse discuter de tout ça. L'objectif est d'arriver avec notre objectif à amener des professionnels qui vont qui sont passionnés de leur profession, qui viennent nous parler de leur réalité. Puis, des fois, ça peut amener des informations complémentaires intéressantes pour nos auditeurs, pour nous aussi. Hein, on a beaucoup de questions par rapport à tout ça.
Oui, tout à fait.
Puis, en ayant les professionnels, on est capable d'arriver à avoir leur juste sur nos différentes questions.
Ouais, ben j'espère avoir été clair dans mes réponses.
Oui, tout à fait. Moi, je peux te le dire. C'était clair.
Bon, ben, merci.
Puis si jamais on a des questions ou on aimerait te contacter directement, on peut le faire par téléphone. C'est ça au 418-822-3343, poste 205. Sinon, on peut te contacter par courriel. On peut contacter Alexandra Labrec à a.labrec en commercial lefrançoisarpenteur.com. Sinon, sur les réseaux sociaux, ils ont leur page aussi, Lefrançois Arpenteur Géomètre. Mm-hmm. Puis, suivant les émissions, Louis-Seb met toujours un post du podcast.
Pour, je vais faire une publication où je vais aller identifier Alexandra et l'entreprise. Donc, pour les auditeurs qui écoutent puis qui n'ont pas eu le temps de noter, là, ça arrive souvent à la radio, c'est ça. Tout se trouve sur la page Facebook de La Traverse ou sur CJMD 96.9 ou le podcast sur 969fm.ca.
Et sur l'application mobile sur Google Play.
Google Play Store, oui. Excellent, un petit clin d'œil. Alors, merci Jean-François, merci Alexandra d'avoir été présent ce matin. C'était bien intéressant et chers auditeurs, on se retrouve demain matin pour une dernière émission de la semaine pour La Traverse. Alors, je vous souhaite une excellente journée.
Sur Facebook, CJMD 96.9 Lévis.
Pour vos besoins en matière de sécurité, pensez Sécurité Accès. Basé à Lévis depuis maintenant 20 ans, Agence Sécurité Accès est la référence en matière de sécurité sur la Rive-Sud, également présent à l'échelle de la province. Marco Lefebvre, propriétaire et gestionnaire, assure un service de qualité en étant proche de ses clients comme de ses agents. Optez pour un service de sécurité personnalisé adapté à vos besoins, quels qu'ils soient. Entreprise aux divers services, entre autres.
Agence Sécurité, de premier soin, d'unité canine, de signaleur, de patrouilleur et beaucoup plus.
Ils sont en recrutement constant en passant. Joignez-vous à l'équipe. Sécurité Accès, votre référence en matière de sécurité. www.sécuritéaccès.com. Sécurité Accès pour une protection répondant à vos attentes. 418-838-8804.
418-838-8804.
Red Beard Survival, l'école de survie au Québec, a une nouvelle activité. L'initiation à la survie en forêt. Venez passer une demi-journée dans le décor féerique de la montagne du domaine du radar, tout en apprenant les trucs de survie de nos instructeurs chevronnés. Un petit feu en forêt, des ateliers pratiques, des défis et bien plus dans une ambiance familiale et décontractée. Le tout pour seulement 50$ tout inclus.
Oui, 50$ tout inclus.
Amenez la famille, les amis et les collègues pour réserver vos place www.redbeardsurvival.ca.
Redbeardsurvival.ca.
Pensez à Ninette. Ce sont les experts en ménage résidentiel dans la région de Lévis. En plus d'être le service voyage de surveillance d'animaux et de domicile ou les deux, aninette.ca. Parce qu'un soin pour votre foyer, c'est aussi un soin pour vous. Faites-vous faire une soumission, c'est gratuit. Quand vous aurez conclu que c'est fait pour vous, votre facture sera faite à l'heure, vous bénéficierez de leurs services garantis et de leurs assurances qui vous protègent de tout dommage. Et c'est écolo aussi. Ils soignent votre résidence et vos animaux avec des produits éco-sûrs. That's it. aninette.ca. 581-984-3680.
Vous avez le goût de liberté et d'évasion? Les écoles de conduite technique vous invitent dès aujourd'hui à suivre vos cours de moto et scooter sur la rive sud comme sur la rive nord. Nous avons des horaires flexibles et des cours disponibles 7 jours sur 7. Bientôt 16 ans, informez-vous sur notre programme de cours de conduite automobile offert dans nos 12 succursales. Vous pouvez vous inscrire et assigner vos cours en ligne sur technique.ca ou nous contacter au 418-529-3868. Technique, grand formateur de conducteurs.
www.technique.ca.
Vous construisez des maisons? Vous êtes autoconstructeur? Vous vous faites construire une maison?
Assurez-vous que l'air n'entre pas avant que vous y fermiez vos murs.
Parce que l'air qui entre, c'est de l'argent qui sort.
Contactez Réseau de Vinci, les experts en bâtiment.
Vous voulez vendre ou acheter une maison?
Dormir en toute tranquillité?
En faisant inspecter votre maison par les professionnels de Réseau de Vinci.
Pour des conseils justes et précis.
RéseauDeVinci.com. Recommandé CA.
Avec un nouveau bureau sur la rive sud pour mieux vous servir. CJMD 96.9 Lévis, l'alternative radio. Talk, rock and hip-hop.
You are now listening. 96.9.
La radio de Lévis, la station du Mont-Fly. Here we go.
Le ciel est bleu et l'air est doux, comme tes yeux, tout comme tes joues.